Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Champion de la Terre et même champion du climat, ce sont les titres que le président français Emmanuel Macron va recevoir ce soir à New York à l'occasion de la deuxième édition du One Planet Summit, le sommet Une Seule Planète, dont il avait été à l'origine de la première à Paris l'an dernier. Des titres pour récompenser son action en faveur de la protection de l'environnement et du climat donc. Des titres qui font grincer quelques dents, notamment chez les défenseurs de la nature, quelques semaines seulement après le départ fracassant de Nicolas Hulot du gouvernement en raison de la place accordée selon lui à l'écologie. Emmanuel Macron mérite-t-il d'être appelé champion de la Terre? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Arnaud Leroy, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes ancien député, président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, ancien porte-parole d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle et chargé d'élaborer le programme énergétique du candidat. Et Benoît Faucheux, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général de l'ONG CCFD Terre Solidaire.
C'est ça.
Champion de la Terre. Avant de passer au fond, je voudrais d'abord juste évacuer une question et vous demander ce que vous pensez de la formulation qui évoque au choix le sport ou un dessin animé japonais des années 80, enfin pour ma génération, ou peut-être encore autre chose pour d'autres. Est-ce que c'est pas un petit peu étrange comme formulation, Arnaud Leroy ?
Bah écoutez, je pense qu'il faut surtout se référer au sens anglais du terme. Donc le champion, c'est quelqu'un qui entraîne, c'est pas nécessairement quelqu'un qui reçoit une médaille parce qu'il est premier, second ou troisième. C'est cette définition-là qu'il faut retenir. Et là, on peut pas nier le rôle d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans les négociations climatiques, aussi bien dans la finance durable actuellement ou sur les sujets pacte de l'environnement qu'il est encore en train de défendre à New York à 7h.
Benoît Faucheux, champion de la Terre, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, champion de la Terre... Pour nous, c'est vrai que l'expression résonne avec le nom de notre ONG, puisqu'on s'appelle CCFD Terre Solidaire. Donc on se dit qu'un champion de la Terre, nous ce qui nous intéresse, c'est que ce soit un champion de la Terre solidaire. Après, moi je suis partagé entre plusieurs sentiments. Je suis partagé entre la curiosité, entre une certaine forme de tristesse aussi, et de la détermination. Ouais. Curiosité, parce que je pense que, effectivement, le symbole de ce prix qui est remis par le programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est de dire il faut un leader, il faut entraîner tout ça et la France dans son discours un discours qui est entraînant. Mais je suis curieux de voir comment on va passer du discours aux actes, parce que bon, on y reviendra dans le débat, mais je trouve que on a de très bons discours qui sont très intéressants, mais que les actes en France ne sont pas encore à la hauteur des enjeux, et que si on veut effectivement emmener le reste de la planète, il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et après, un peu de tristesse, parce que finalement, si on donne ce prix à la France, c'est peut-être que il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe ailleurs? Où sont les dynamiques au plan international sur ces questions de transition écologique? On peine un peu à les trouver. Et finalement, tout ça renforce notre détermination à agir.
Arnaud Leroy, on a compris que, selon vous, Emmanuel Macron mérite d'être mis en avant de cette manière. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a réalisé déjà qui mérite le fait qu'il soit mis en avant comme ça?
Bah, écoutez, moi, je rejoins Benoît Faucheux sur un point, sur le fait que c'est un choix effectué par le programme des Nations Unies pour l'environnement.
Donc, titre partagé avec Narendra Modi, le premier ministre indien également. Hein,
voilà. Notamment pour l'Alliance solaire internationale, qui permet, et je pense qu'il faut qu'on s'arrête deux minutes là-dessus, d'électrifier des pans entiers de l'humanité. En Inde, vous avez 600 millions de personnes qui n'ont pas accès du tout ou de manière plus qu'intermittente à l'électricité. C'est ça dont on parle aussi en termes de mobilisation d'Emmanuel Macron. Après, je pense qu'il ne faut pas du tout surestimer ce prix, parce que aujourd'hui, c'est en termes de tempo et d'agenda du président à New York, vous allez voir que c'est relativement peu par rapport aux autres engagements. Donc je pense qu'il faut raison garder là-dessus. Il y a un élément qui est important que Benoît Faucheux a souligné, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, les sujets dont on parle, climat, biodiversité, nécessitent du multilatéralisme. Vous avez un défenseur du multilatéralisme aujourd'hui affirmé, dans un monde qui est plutôt contraire sur ces sujets-là, c'est Emmanuel Macron.
Oui, c'était le sens de son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies hier. C'était le principal axe. Selon vous, Benoît Faucheux, il y a plus au crédit ou au débit dans le bilan écologique d'Emmanuel Macron au bout d'un an?
Ah, au débit ou au crédit? Ah, d'accord. Quel est le solde de l'histoire?
Pourquoi pas?
Ouais, c'est une question intéressante. Alors bon, pour moi, quand on parle de soldes et de, finalement de l'indicateur qu'on regarde, c'est quoi? C'est l'empreinte écologique de notre pays. Alors, est-ce que l'empreinte écologique de notre pays a évolué dans le bon sens depuis qu'on a un nouveau président? C'est difficile de la calculer. Il y a des choses qui permettent de, enfin, qui ont permis des avancées qui sont intéressantes, d'autres sur lesquelles on est un peu bloqué, et je pense à la transition de l'agriculture où pour moi ça ne va pas assez vite.
Les émissions de gaz à effet de serre ont été à la hausse en 2017.
Ouais, c'est ça, les émissions ont été à la hausse en 2017. Donc quand on fait le calcul de l'empreinte écologique, selon les indicateurs, on voit des choses qui avancent dans un sens ou dans l'autre. Mais moi, ce dont je suis persuadé, c'est qu'aujourd'hui, on n'est de toute façon pas à la hauteur des enjeux et qu'il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et quand Monsieur Jouzel nous dit on a 2-3 ans pour arriver à faire une transition énergétique et écologique, enfin climatique forte, c'est pas... Enfin, 2-3 ans, c'est très court. Dans le temps de l'action politique, c'est vrai. C'est difficile d'arriver à aller aussi vite, mais je pense que là, on n'est pas encore à la hauteur des enjeux, et que finalement, ce que le gouvernement a fait sur le sujet, il y a des choses qui vont dans le bon sens, et ça c'est intéressant, mais le gouvernement n'a pas encore réussi à s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire le changement des systèmes de production. Si on prend juste le secteur agricole, aujourd'hui on a une loi qui est en discussion sur l'avenir de l'agriculture, qui ne permet pas à notre sens d'aller suffisamment loin dans le changement de système de production, et l'agriculture c'est à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre de notre pays, donc c'est important, c'est un secteur qui a un impact majeur sur la biodiversité, qui en termes d'économie circulaire et de consommation de ressources est aussi très important, sur lequel on n'avance pas assez loin. Ça c'est un exemple, mais...
Arnaud Leroy, vous le disiez tout à l'heure qu'Emmanuel Macron donnait l'impulsion au niveau international, est-ce qu'il parvient à donner l'impulsion en France sur ces questions-là?
Écoutez, en tout cas, on est en phase avec ce qu'on a raconté durant la campagne électorale, qui était de faire une écologie pragmatique. Vous savez, on est un pays où on est très bon pour se donner des objectifs qu'on n'est jamais capable de tenir. Et c'est notamment le cas, par exemple, sur la loi de transition énergétique. Hein, on est déjà loin par rapport aux cibles, donc il faut rattraper le chemin avant de se donner une nouvelle ambition. Moi, ce que je vois, par exemple, à la tête de l'ADEME, c'est que, ces sujets de transition sont totalement assumés dorénavant par le gouvernement, quel que soit le ministre. Et je pense que Nicolas Hulot a peut-être d'autres sujets pour démissionner, mais en tout cas, il y avait une feuille de route, elle est crantée, ça c'est important, on continue, savoir développement de l'hydrogène par exemple, économie circulaire, transition agricole, et je rejoins Benoît Faucheux, peut-être que ça va peut-être pas assez loin, mais en tout cas, quand vous voyez notamment les objectifs de conversion en bio, quand vous voyez des obligations d'achat de services, notamment pour servir dans les cantines, les établissements collectifs, du circuit court, du bio, dans des chiffres conséquents, dont on se demande aujourd'hui comment on va les remplir. Il faut savoir ça aussi, c'est que je crois qu'on est en train de construire quelque chose. Moi, ce qui m'importe à la tête de l'ADEME, à côté du gouvernement, c'est de cranter les choses pour éviter l'effet...
retour.
Exactement. Donc là, moi, j'assume totalement la notion de transition. Ça se travaille. On travaille sur les questions des mobilités. On travaille aussi pour limiter tout ce qui est grignotage de terres arables. On travaille sur la ville de demain. On travaille sur l'adaptation au changement climatique. Par contre, il faut assumer, et je pense qu'il ne faut pas mentir aux Français sur ça, c'est que c'est un sujet de long terme. En tout cas, au moins de moyen terme. Et je terminerai sur un exemple. Les outils dont on se dote, et on s'est doté, notamment avec le ministre Sébastien Lecornu, sur les contrats de transition écologique, où on fait de la dentelle territoriale pour trouver un avenir écologique à des territoires. Et vous, par exemple, un territoire assez célèbre pour les combats écologiques, Fessenheim. On est en train de travailler et donner un avenir à un territoire. Et ça, c'est vraiment acter une transition pragmatique. Vous pouvez faire des déclarations annoncées comme ça a été fait par des anciens ministres de l'Environnement. Nous aurons l'usine majeure Tesla des batteries. Jamais ils ont vu le début d'une brique pour travailler sur cette fameuse usine de batteries. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur ce territoire-là comme d'autres, que ce soit la Rajoie, demain l'Avesnois, c'est de travailler avec l'ensemble des territoires, toucher l'ensemble des thématiques et pas simplement la transition énergétique, mobilité, agriculture, c'est des sujets importants. Rénovation thermique, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Ça, c'est des sujets. Vous voyez le plan Renault qui a été annoncé.
500 000 logements, c'est l'objectif.
Exactement. Hein. Mobilisation, pour la première fois aussi, de l'ensemble de l'écosystème. Donc, création d'une équipe de France de la rénovation thermique, où on va donner une place au privé, où on donne une place aux collectivités locales. Voilà, pour justement mettre tout le monde sur la même route. Donc voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à des soldes, vous avez des coups politiques qui essaient d'être faits, certains veulent être tête de liste aux européennes, donc ils essaient d'exister, style Monsieur Jadot. Voilà, ils ont scié la branche sur laquelle était assis Monsieur Hulot pendant des lustres, et pendant maintenant, depuis quelques mois, ils en font le martyr de la cause écologique et la victime de la politique Macron. C'est pas le sujet.
D'autant que Yannick Jadot n'est pas là pour vous répondre.
Non, non, mais souvent on n'est pas là non plus pour répondre
ces attaques. Ça arrive souvent.
Donc, ce que je veux dire simplement sur cette question-là, c'est qu'il y a un travail qui est fait. François de Rugy, son équipe, Brune Poirson sur la finance durable, sur l'économie circulaire, Sébastien Lecornu sur des sujets ardus quand même, parce qu'on peut dire que demain on peut sortir du nucléaire, on peut faire ci, on peut faire ça. Vous voyez la difficulté qu'on a de sortir une programmation pluriannuelle de l'énergie dont on parlait juste avant dans un reportage. Voilà, ça c'est des données industrielles, des données territoriales, et surtout je pense qu'il faut pas mentir aux Français sur le chemin qui est emprunté. C'est un temps long et il faut assumer ce temps.
Benoît Faucheux, il y a eu l'arrêt du projet Notre-Dame-des-Landes. En comparaison, par exemple, en ce moment, il y a une lutte des défenseurs de l'environnement sur le grand contournement ouest de Strasbourg, avec des forêts qui sont coupées pour pouvoir créer cette bretelle autoroutière. Est-ce que, si on pèse le pour et le contre, il y a quand même un symbole important avec cet arrêt de Notre-Dame-des-Landes et que le reste est un petit peu marginal?
Alors, pour moi, la question de Notre-Dame-des-Landes est une question importante dans notre pays, qui a à voir avec le développement du transport. Mais moi qui dirige une organisation de solidarité internationale, on intervient partout dans le monde, dans beaucoup de pays, dans 68 pays exactement, auprès de 700 partenaires. Qu'est-ce qu'ils font les organisations de la société civile avec lesquelles on travaille? Ils mettent en place des alternatives concrètes qui vont dans le sens d'une transition écologique, solidaire et citoyenne. Des alternatives comme on a ici en France, quand on a des petits collectifs qui développent l'agriculture biologique, des circuits courts, donc des initiatives locales qui vont dans le bon sens. Et puis, ces organisations de la société civile, elles sont aussi confrontées à des projets qu'on peut ici qualifier de grands projets inutiles, et qui nécessite qu'ils se mobilisent pour essayer de lutter pour leurs droits. Des projets de création de mines, des projets
d'enfouissement de déchets.
D'enfouissement de déchets, ça peut arriver aussi un peu partout dans le monde. Et moi, je suis persuadé que si on n'a pas à la fois cette mobilisation locale au service d'initiatives qui vont dans le bon sens, qui permettent de créer les systèmes économiques et les systèmes d'avenir, et en même temps des mobilisations pour arrêter ce qui ne va pas dans le bon sens, on n'est pas en capacité de préparer le monde de demain. Donc c'est pour moi la même chose en France. Il faut effectivement construire les initiatives. Et ce qu'on attend de l'État, c'est qu'il accompagne tout ça et qu'il aide à aller encore plus loin et encore plus vite. On a une dynamique extraordinaire aujourd'hui dans ce pays qu'est la France autour des questions d'alimentation et d'agriculture. L'agriculture biologique, effectivement, c'est jamais autant développé que cette année. Depuis 40 ans que ça existe. Alors c'est pas seulement le fait des politiques publiques, c'est parce qu'il y a une vraie poussée dans le pays là-dessus. Donc ce qu'on attend, c'est d'avoir des politiques publiques qui permettent d'aller encore plus loin et encore plus vite. Le pays est prêt, donc allons-y.
Arnaud Leroy, je reviens sur la transition énergétique et pour prendre l'exemple des éoliennes offshore, c'est un domaine dans lequel la France n'est pas très avancée, beaucoup moins en tout cas que la Grande-Bretagne par exemple. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut insister ? Parce qu'on a bien compris qu'on n'allait pas rouvrir des centrales thermiques pour favoriser la sortie du nucléaire, mais est-ce que justement il ne faut pas aller davantage vers ça ?
Bah écoutez, en tout cas, il y a eu un engagement pris par le gouvernement là sur le maintien notamment des projets à des coûts raisonnables, parce qu'il y avait aussi un sujet de coûts, notamment sur les projets d'éolien offshore au large des côtes françaises. Voilà, aujourd'hui, on a différentes technologies. On a l'éolien posé, on a quelque chose de très prometteur où la France a un coup à jouer avec l'éolien flottant. Et vous avez des super expériences en cours, notamment au large du Croisic avec Floatgen. Voilà, ça fonctionne, je suis allé voir moi-même. On a des capacités, je rejoins Benoît Faucheux sur la mobilisation du pays. On a beaucoup, beaucoup d'initiatives, les territoires, les régions, les métropoles. Je pense qu'il y a un dialogue fort à mener sur la question de la transition énergétique et écologique avec les territoires. Rien ne se fera sans les territoires. Ça, c'est indéniable. Donc, on a beaucoup, beaucoup de solutions. Après, vous avez, en France, des cultures, et en matière énergétique, on a une culture assez marquée. Donc, il faut rassurer, et je peux vous dire que quand vous discutez transition énergétique, notamment via les CTE, et ça je pense que c'est important, un des freins aujourd'hui c'est la question des contrats de transition écologique, la question de l'emploi, de l'avenir d'un territoire. Vous avez des personnes qui sont ancrées, qui ont leur vie, qui ont fait des achats immobiliers, ils y voient aussi un avenir pour leur enfant. Si la puissance publique est pas capable de rassurer, on butera toujours sur la dernière marche pour le passage et la réussite d'une transition écologique, parce que une partie de la société est mûre, vous avez une partie qui se sent parfois encore exclue parce que pas notamment connectée en termes de mobilité durable, agile, tout ce qu'on veut. Il faut aussi avoir ça en tête sur l'aménagement du territoire. Mais moi, je tiens surtout un discours de raison. On a aujourd'hui des capacités, on a aussi un enjeu de pas faire déraper le budget sur ces questions-là. Alors on me dira, oui, mais les générations futures, demain, elles auront aussi besoin de pouvoir emprunter, de s'endetter elles-mêmes pour continuer ce qu'on est en train d'initier sur la transition énergétique et écologique. Et dernier point, avant que vous me coupiez, il y a un sujet important, c'est que cette
j'ai
affaire...
J'ai du mal à vous couper ce soir, allez-y.
Cette question de transition écologique énergétique, elle doit dépasser, elle doit enjamber les questions électorales.
Ouais.
Donc il faut que ce qui a été fait, notamment sur la loi de 2015 votée par Hollande, c'est la continuité et la mise en œuvre par Emmanuel Macron, que ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui soit aussi continué, soit dans un second mandat par Emmanuel Macron, ou par la successeuse ou le successeur. Il faut que on accepte politiquement cette alliance nécessaire sur ces sujets climatiques et de transition, sinon on n'y parviendra jamais, on sera toujours dans le stop and go.
Nouveau mandat d'Emmanuel Macron, vous voyez effectivement les choses au moins moyen terme. La décision de ne pas signer d'accords commerciaux avec les pays qui ne respectent pas les accords de Paris, qu'en pensez-vous? Elle a été annoncée hier par Emmanuel Macron devant l'ONU. Qu'en pensez-vous, Benoît Fouché?
Moi, je pense que ça va dans le bon sens. Il faut qu'on ait une politique économique et commerciale au niveau international qui soit subordonnée aux questions environnementales et sociales. Donc pour moi, ça va dans le bon sens. Après, bon, ça n'est pas suffisant, mais moi, il me semble que oui, ça va dans le bon sens, mais que le cœur du problème, c'est d'arriver à s'appuyer à la fois sur toutes ces initiatives, cette envie de changer qu'on peut constater un peu partout, pour arriver à faire évoluer le cœur du réacteur, pour reprendre une métaphore énergétique, qui est le système économique. Tant qu'on a un système économique qui est basé sur l'idée qu'il faut de la croissance, et qu'on mesure la croissance en mettant tout dedans, y compris ce qui est mauvais pour l'environnement, y compris ce qui est mauvais pour les populations, y compris ce qui dégrade toutes les ressources naturelles, et que c'est ça notre indicateur, et que c'est comme ça qu'on conçoit l'évolution, on marche sur la tête et ça ne peut pas fonctionner. Et ça, ça n'est pas dans les accords de commerce international, c'est sans doute le stade d'après. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut que tout le monde se mobilise, toutes les forces politiques, mais il faut aussi qu'on aille jusqu'au bout, qu'on se dise que c'est pas seulement des quelques mesures correctives, il faut arriver à aller au cœur du problème qui est de changer le système économique.
Est-ce que ça doit être la priorité numéro un, l'écologie, Arnaud Leroy ?
Personnellement, je le pense. Je crois que c'est pas la peine de se mentir. Si demain on n'arrive pas à assurer la vie, on n'arrive pas à assurer une alimentation saine.
Devant le chômage,
Mais tout est lié. Quel avenir vous pouvez avoir si demain tout s'effondre? Faut pas se voiler la face. Sans faire de catastrophisme, vous avez déjà le chômage peut être résorbé par une transition écologique parce que c'est assez riche en emplois. On le voit. Nous, on a travaillé à l'ADEME. 2050, on a 900 000 emplois créés avec des postes qui souffrent un petit peu, notamment le nucléaire, des choses comme ça, mais on voit aussi 40 000 nouveaux emplois dans la transition agricole, donc on voit du service, on voit de la mobilité, de l'aide à la personne, la question du côté juste aussi et solidaire de cette transition, elle est importante, parce que nous on est dans des pays relativement riches, et je parle sous le contrôle de Benoît là-dessus, on voit très bien que tout le monde regarde ce qui se passe en Europe ou en Amérique du Nord, parce que c'est des éléments qu'on veut copier, donc on a aussi une vertu d'exemplarité pour démontrer qu'on peut embarquer nos territoires et nos pays sur ces sujets-là. Donc moi je crois que c'est une priorité vitale, et on le voit sur la question agricole, aménagement du territoire, ville, parce qu'on donne aussi un avenir à notre jeunesse, et quand on parle, vous parlez tout à l'heure de Jean Jouzel, 2050-2030, on parle d'enfants qui sont nés déjà aujourd'hui, et qui sont presque adolescents.
Merci Arnaud Leroy, merci Benoît Faucheux également. On est déjà au bout de cette émission. Merci d'y avoir participé. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Olivier Roux. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr ou sur les plateformes mobiles avec l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.